Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8. Mathieu Fulne, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les studios de Radio Eulenspiegel. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler du collectif qui veut défendre le Steenmuiden à Terre de Gem.
Oui, bah merci pour l'accueil. Oui, donc le collectif Steenmuiden, hein, c'est aussi simple que ça, son nom. C'est un collectif qui s'est un peu créé spontanément sur les réseaux sociaux à la suite d'une information qui est parue dans les journaux et donc forcément sur les réseaux sociaux sur la mise en vente du site. Et cette annonce de mise en vente a créé un émoi assez important et donc un collectif qui s'est créé spontanément sur les réseaux sociaux. Ouais. Collectif Steenmuiden.
Toi-même, tu es origine de Steenvoorde et ce moulin, même s'il est sur Terre de Gem, on le voit très bien en étant à Steenvoorde, tu veux t'impliquer pour le sauver.
Oui, bah après, qu'il soit sur Terre de Gem, oui, c'est vrai que c'est important de le savoir, mais le Steenmuiden, on va dire qu'il trône sur la ville de Steenvoorde et les alentours, comme le clocher de Steenvoorde trône sur Terre de Gem et les alentours. Enfin, voilà, il faut savoir que de l'autre côté du fossé, on est bien sûr à Steenvoorde. Mais au-delà de ça, au-delà de ces considérations territoriales, oui, originaire de Steenvoorde, Steenvoorde, il y a, si je ne me trompe pas, il y a deux moulins en plus de celui
du Drivenmuiden, le Nordmuiden.
Le Nordmuiden. D'ailleurs, j'ai grandi au chemin du moulin du Nord, donc je voyais un moulin tous les matins en me réveillant. Et je voyais aussi le Steenmuiden très très souvent, puisque voilà, il est sur la route principale d'Hazebrouck et pour aller vers l'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui le voient tous les jours. Il a une place, on va dire, à peu près centrale et symbolique. Donc oui, je suis Steenvoordois et attaché au lieu, mais comme plein d'autres mondes qui sont habitués à le voir.
C'est un moulin unique dans son genre, puisque des moulins de briques, il n'y en a plus. C'est le dernier.
Oui, c'est. Alors, il y en a un peu dans la région. Il y en a un, par exemple, à Vervic, mais c'est vrai qu'il y en a très peu, beaucoup moins que les moulins en bois. Et faut bien savoir que même s'il est un moulin, c'est un moulin de pierre, c'est un moulin qui demande quand même.
D'où son nom, Steenmuiden.
Steenmuiden, Steen qui veut dire pierre, comme Steenvoorde qui veut dire gai de pierre. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a même plus beaucoup de moulins dans la région. Ma grand-mère, qui était de Terre de Gem, justement, me disait que quand on regardait Cassel à l'époque où elle est née dans les années 20, à l'époque où elle était enfant, on voyait une vingtaine de moulins sur Cassel. Et en fait, tous les moulins ont disparu les uns après les autres. Et même si c'est le seul moulin en pierre, c'est même au-delà de ça, l'un des derniers moulins qui nous reste.
Joseph Marquet, par lui-même, c'est une figure emblématique de ce moulin. C'est lui qui faisait vivre, qui faisait visiter avec son petit musée à proximité.
Oui, en fait, tout reposait sur lui et sur son épouse Vera qui s'est impliquée beaucoup. Moi, je me souviens, j'ai visité avec les écoles et les centres aérés, et c'est pareil pour mes frères et sœurs et pareil pour plein d'autres jeunes qui ont grandi à Steenvoorde, Terre de Gem. J'ai visité au moins 3 fois ce moulin, et c'était Jeff, avec sa voix particulière, cette passion.
Sa casquette visée sur la tête.
Sur la tête, on va dire son vêtement bien, bien typique, son accent flamand, sa façon qu'il avait de nous expliquer quelle partie de la farine servait à faire le pain et tout ça. Enfin, c'est même des choses que je retiens. Tout reposait sur lui. Il a créé le musée à côté qui réunit des machines agricoles anciennes. Il a créé, il a réaménagé l'ancienne maison du meunier en mettant des gigotos aux tomates d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout a été imaginé par lui. Alors c'est pas lui qui l'a construit, mais dans la façon, dans l'approche touristique, dans ce qui était proposé dans le parcours, on va dire un petit peu de découverte, c'était Jeff et son épouse. Et voilà, j'ai fait partie et puis finalement personne n'a repris.
On peut dire que ce moulin était actif aussi, puisque si je ne me trompe pas, il faisait 750 tonnes de farine à l'année.
Oui, 750 tonnes. Alors quand on lui disait waouh, c'est beaucoup, il disait oh non, c'est rien par rapport à l'époque. Il disait à l'époque on faisait de la farine jour et nuit tant qu'il y avait du vent. Bon, lui il le faisait à titre de pas expérimental, mais il essayait de montrer un petit peu aux gens comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça qu'il en produisait, ça servait à une petite quantité. Et puis voilà, c'était de l'ordre du symbole, mais c'est pour bien montrer que Jeff, il était dans une démarche de transmission. Et faire de la farine, ce n'était pas quelque chose d'économique, c'était pour faire de la transmission.
Jeff, par lui-même, il voulait faire vivre en fait l'âme de son grand-père qui était meunier en utilisant ce moulin.
Oui, c'est ça. En fait, il était lui aussi. En fait, il l'avait eu en transmission, ce moulin. Et parce qu'il l'avait eu en transmission, parce qu'il avait grandi pas loin, parce que son grand-père lui avait expliqué comment ça fonctionnait, il s'était finalement inscrit dans la même démarche. Et il nous avait même dit que voilà, qu'il espérait que cette démarche de transmission perdure après lui. Donc voilà.
C'est ce qui est motivé.
C'est ce qui
et
est
malheureusement, ouais. En 2024, il décède.
Il décède. Alors bon, on est tous tristes de voir, de savoir Jeff disparu. On savait qu'il avait même mal vécu un peu le Covid avec le confinement, cette impossibilité qu'il avait de transmettre. Et puis finalement, il est parti sans qu'on s'en rende compte là, il y a quelque temps, via les articles de journaux qui nous ont annoncé la mise en vente, sans que finalement la transmission soit préparée, en disant sans que la suite soit forcément préparée. Et voilà, c'est un peu ce collectif, c'est un peu un cri du cœur. Vis-à-vis de la tournure que prend les choses.
Je serais tenté de dire aujourd'hui, attention, danger, puisque ce moulin va se dégrader s'il n'est pas utilisé, s'il n'est pas entretenu.
Bah oui, voilà, tout à fait. Il est mis en vente. Bon, il est mis en vente à un prix. Il y a des prescriptions qui s'imposent à lui. C'est un monument historique avec des dépenses obligatoires. C'est un ERP, donc un établissement recevant du public avec des mises aux normes obligatoires. Et il est situé au PLU dans un certain zonage qui font que bon, l'acte de reprise d'achat, à mon avis, il va être très, très, très compliqué. Et c'est parce que c'est très compliqué et parce qu'on a déjà un an de passé et parce que déjà Jeff, il avait dû arrêter un petit peu avant son décès parce qu'il n'était plus en mesure de faire vivre le moulin, que le moulin, pour le moment, oui, potentiellement, il peut être en danger comme l'ont été d'autres monuments en Flandre. Hein, je pense au château Breda ou au château Vandamme à Cassel. Des monuments qui ne sont plus entretenus sont des moulins qui sont potentiellement en danger. Et des monuments qui sont potentiellement en danger. Et donc, le Steenmolen, il est dans cette situation-là. Même si la famille l'a mis en vente, je comprends très bien. Voilà, c'est dans le cadre d'une succession et parfois, on n'a pas d'autre solution. Oui, mais les conditions de la mise en vente rend, au final, sa vente très hypothétique. Et pendant ce temps-là, le temps y passe.
On sait qu'aujourd'hui, ses ailes se dégradent et qu'elles devraient être remplacées même.
Oui, oui, on dit, hein, y a une expression comme ça, on dit le vent gifle les ailes parce que ça claque. Y a le soleil, il y a le vent, voilà, c'est comme une maison. Hein, vous n'entrez pas dans une maison pendant 18 mois, vous voyez le résultat.
L'humidité.
Voilà, c'est ça. Et donc, sans faire de mauvais jeu de mots, le moulin est soumis aux 1000 vents, donc c'est encore pire. Et il n'y a pas que ça, hein, y a les bâtiments à côté. Donc, chaque jour qui passe, hein, que des solutions de transmission, de reprise soient trouvées, alternatives, rendre les choses un peu compliquées quand même.
Le collectif par lui-même va bientôt se réunir afin de sensibiliser le public à la sauvegarde du Steenmolen.
Oui, on se réunit donc le 26 avril à 9h30 à l'école Notre-Dame de Lourdes à Steenvoorde. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre peuvent nous rejoindre. En fait, l'association, qu'est-ce qu'elle va faire ? Déjà, elle va faire ce qu'elle a commencé à faire là. Elle va éveiller le grand public à l'intérêt de la sauvegarde de ce patrimoine important, le grand public et les personnes publiques. Il ne faut pas oublier que quand il y a le championnat de France de cyclisme qui passe, quand il y a le Tour de France, ça sera bientôt, quand il passe Jean-Pierre Pernaut, on est tous fiers que ça valorise le territoire. Et ils en sont tous très contents, les pouvoirs publics du territoire. Mais par contre, ils ne peuvent pas se permettre de simplement tourner la tête et de faire semblant de ne pas voir aujourd'hui, alors qu'on se vante de l'avoir sur le territoire en d'autres périodes. D'ailleurs, il était même passé au village préféré des Français où la commune de Terre-de-Gem a fini 6e. Donc vous voyez, il faut éveiller les pouvoirs publics et sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public à cette question. Ensuite, il faut réfléchir aux autres voies de transmission alternatives, puisqu'ils ont pensé à une voie de transmission qui est la vente, mais il y a d'autres voies de transmission. Peut-être confier à un collectif de passionnés la gestion des lieux.
Pourquoi partir pas, sur une location ou quelque chose comme ça.
Pourquoi pas. Faut qu'on en discute entre nous. Faut qu'on voit ce qui est faisable. Et une fois qu'on aura défini cet autre mode de transmission et de gestion, là, on va pouvoir aller, pourquoi pas, lever des fonds pour pouvoir faire vivre le nouveau modèle, quoi, et pour pouvoir faire perdurer la mémoire de Jeff et faire perdurer tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Donc voilà, c'est assez méthodique. On veut sensibiliser, on veut réfléchir à des voies alternatives et ensuite, on veut lever des fonds, si nécessaire.
Vous êtes partie prenante pour contacter la région, le département, les comités de communes ?
Oui, oui, forcément, hein, y a des gens qu'on va contacter, hein, tous ceux que vous avez cités, hein, forcément, la communauté d'agglomération, même les villes et villages du coin, qui ont tous, hein, toutes ces personnes que vous avez citées, hein, ils ont tous bénéficié à un moment de la lumière du Steenmolen, donc je pense qu'on est en droit d'aller les voir, mais pas avant le 26, pas avant qu'on ait constitué l'association de droit.
On va préciser quand même que je parle, puisque nous sommes à Cassel, du Tour de France, quand il y a le Tour de France qui passe à Cassel, c'est quand même 8 millions de personnes qui voient Cassel et la Flandre.
Tout à fait, et on peut rajouter les millions qui ont vu les championnats de France, les millions qui ont vu les reportages sur le Stade Meulen sur TF1, bon, un peu moins de 8 millions sur WEO, mais voilà, il y a... Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'on ne peut pas se prévaloir de ce genre, d'une certaine fierté d'avoir ce genre de monument atypique et remarquable sur notre territoire et faire comme si ce n'était pas notre problème, ce qui est en train de se passer là aujourd'hui.
Les auditeurs qui seraient sensibilisés, qui voudraient rejoindre le collectif, la meilleure façon, c'est déjà de liker, comme on dit, ta page Facebook.
Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde est sur Facebook. N'hésitez pas à adhérer au groupe qui s'appelle... C'est un groupe, mais il est ouvert pour le moment, donc tout le monde peut voir ce qui est posté. Donc ça s'appelle Collectif Stenmullen. C'est aussi simple que ça. Après, on a une adresse mail, c'est collectifstenmullen@gmail.com. Et pour le moment, c'est nos seules voies de transmission. Après, une fois que l'association sera créée, peut-être qu'on fera les choses autrement. Mais pour l'instant, voilà, adhérer au collectif, parce que plus on est déjà près de 100, plus on sera nombreux, plus on va faire avancer la cause. Voilà.
Tu penses lancer une cagnotte en ligne ?
Bah, là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la troisième partie. Une fois qu'on aura sensibilisé, une fois qu'on aura trouvé des voies alternatives, oui, il va falloir peut-être, une fois qu'on aura déterminé cette voie alternative, qu'est-ce qu'on a besoin pour la faire vivre ? Et peut-être qu'on aura besoin de vivre de dons, de mécénat. Mais là, c'est un peu trop tôt, puisqu'on n'a pas défini encore le scénario. Il y a même des gens qui m'ont contacté tout de suite sur Facebook en disant où est-ce qu'ils pouvaient envoyer leur chèque. Enfin, j'ai apprécié la démarche et c'était une marque d'affection qui m'a beaucoup touché. Mais néanmoins, j'étais obligé de leur dire que c'était un peu trop tôt.
Dans tous les cas, sache que tu peux compter sur la Voix de la Flandre, de Stem van Vlaanderen, Radio Inspirel, pour le soutien au collectif Stenmullen.
Eh bien, merci à Helen Spirel, parce que je suis ravi qu'on puisse être soutenu et je suis même touché de la démarche que vous me faites aujourd'hui.
C'était une évidence pour nous.
C'était une évidence, mais vous voyez, c'est pas parce que les choses sont évidentes que ça fait pas plaisir de les entendre. Et je veux vous remercier pour cette démarche et remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le début dans cette aventure qui débute.
Entendu. Mathieu, merci d'être venu au studio. Sauvons le Stenmullen parce que c'est un monument emblématique de notre territoire.
Voilà, je n'aurais dit mieux. Sauvons le Stenmullen.